Des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Le Beatnik Show, la meilleure playlist de rap au Québec. Des talents locaux, des nouveautés, la crème du hip-hop québécois. Avec votre MC, Nick Leclerc.
Lundi, 18h30.
94.3. Chiz.
Oh yeah, Chiz.
Pour le meilleur beat, Beatnik Show, man. Je le dis, c'est malade.
J'ai faibli dans le désordre. Au téléphone, fixé le sol quand le silence a couru. Tu m'as fait marcher dans tes idées. Maintenant que tu m'as eu, tu chantonnais. Toute ma vie, j'ai trop dit oui. Mais ce soir, je resterai ici dans tu m'aimes. C'est moi qui ferme toute ta clé. Ou est-ce que c'est toi qui ne m'as jamais rien donné? Au risque de tout manquer, j'envisage la possibilité de ne plus jamais te voir. Je me tiolerai coquelicot de mai. Ah, ça pique dans mes yeux.
Il semblerait que l'intro ne veuille pas se lancer, donc sans introduction, on va commencer notre émission hebdomadaire. Donc bienvenue à tous à des Kiwis et des Nerds, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche midi pour parler de tout ce qui est jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle et compagnie. Donc avec moi cette semaine, nous avons encore Maya Fizet, 14 ans, donc bonjour à toi Maya.
Allô.
Et nous avons aussi deux invités spéciales. Nous allons aussi avoir la venue de notre chroniqueur quasi hebdomadaire, Nassim, qui va venir nous parler de sa première expérience de Donjons et Dragons avec votre serviteur dévoué comme étant son maître de jeu. Et sans plus attendre, on peut donc se mettre à discuter de nos anecdotes, des petits moments cocasses, d'éléments drôles qui se sont produits, que ce soit pendant nos parties de Donjons et Dragons, de jeux vidéo, ou simplement dans la vie quotidienne. Est-ce que tu avais quelque chose pour nous, Maya? Parce que toi, tu étais en tournage pour Dédale et Magie. Est-ce que tu as des primeurs, des anecdotes à nous raconter à ce sujet?
Ouais, exactement. J'étais dans le tournage de Dédale et Magie, puis j'ai pas tant d'anecdotes que ça, sauf une qui est quand même assez cocasse. On n'arrêtait pas de devoir recommencer à tourner les scènes parce que on n'arrivait pas à tourner. Et donc, on est allé manger du mac and cheese et on a fait des one take.
Oh, fait que, comme de quoi les mac and cheese, ça permet au réalisateur de tout faire en une seule prise?
Exactement, c'est pour ça. Donc, il faut manger du mac and cheese.
Allez, je le prends en note à l'instant. Je sais pas si vous m'entendez, mais c'est important de le savoir. Blague à part, moi, de mon côté, j'ai pas grande anecdote, hormis du fait que là, cette fois-ci, dans les prochaines semaines, on va recommencer à avoir beaucoup, beaucoup d'anecdotes de jeux de rôle parce que bien l'école recommence, ce qui signifie qu'avec ça, bien moi, je recommence à avoir mes différents contrats. Je dirais, hormis le fait que mon vélo a beaucoup servi dans la dernière semaine parce que je suis allé rencontrer différentes écoles, je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire grand-chose. Cependant, on s'influence entre nous à des Kiwis et des Nerds la semaine dernière. Donc, vous, si vous étiez présents, nos chers auditeurs, vous nous avez entendu parler de Stardew Valley, de Katana Zero et notamment de Dark Souls 2. Eh bien, alors que moi, je parlais de Dark Souls 2, notre chroniqueur Jérémy Germain s'est donc remis à jouer cette semaine. Jérémy Germain, qui parlait de Katana Zero, a convaincu Mathieu Gingras de recommencer à jouer à Katana Zero. Et Mathieu, qui parlait de Stardew Valley, m'a fait acheter Stardew Valley. Comme de quoi être un nerd, ça ne s'arrête pas à partir du moment où l'on commence à être à la radio. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons Louis Dion Dussault, qui est coproducteur sur un court-métrage qui s'appelle La Muse, aussi un ancien Kiwi. Et nous avons aussi la réalisatrice Alban Fanny. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Salut, merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Et donc, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est La Muse? Bien, la Muse, en fait, on parle d'un projet d'ambition qui a impliqué plus d'une trentaine de personnes, dont 15 dans des postes clés. On parle d'un caméraman professionnel en la personne de Marc Thibault, qui est enseignant et réalisateur à l'École de cinéma et télévision de la Ville de Québec. On parle d'une magnifique direction photo, oui, j'ai vu les images un peu en avance, de Jason Caro-Hamel, d'un maquillage efficace de Stéphanie Gagnon. On a aussi, dans la Muse, des acteurs et des actrices professionnelles, notamment Jérémia Monny, Delphine Hébert-Landré et Julien Ouellet, mais on a aussi un dénichage de talent qui s'est fait en l'actrice Karine Bisson, qui débute, mais va définitivement avoir une carrière assez prolifique. C'est aussi 4 jours de tournage complet avec l'excellente aide du coproducteur, photographe, réalisateur et, tout en modestie, président de Kino, Louis Dion Dussault, qui est avec nous aujourd'hui. Le projet a notamment été supporté par Spira, le Centre Morin, l'Appart Anticafé, tout en étant partiellement socio-financé. Ça en fait du travail à accomplir, mais ça ne donne pas froid aux yeux de la réalisatrice et étoile montante Alban Fanny, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, viens donc nous parler un petit peu de ce projet qui est quand même assez ambitieux, Alban.
Oui, c'est sûr. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. La Muse, c'est le projet le plus ambitieux que j'ai fait jusqu'à présent. Là, moi, je suis une kinoïte de la cellule de Kino Québec depuis 2019. Et puis, c'est vrai que j'ai voulu un peu faire le prochain step pour aller dans la vie professionnelle du cinéma. Donc, il faut se lancer à un moment donné. Donc, mm-hmm. on s'est lancé dans une grosse autoproduction. Puis, comme tu disais, avec une trentaine, même quarantaine, on a eu une grosse scène avec 40-45 personnes.
Ouais, il y a eu une scène avec beaucoup, beaucoup de figuration.
Ouais, c'est sûr. Mais à un moment donné, quand c'est ton rêve et puis que t'as vraiment envie de te professionnaliser là-dedans, tu te donnes les moyens et puis tu braves un peu ta peur de l'inconnu.
Exact, il faut se lancer. Toi, Louis, t'as beaucoup aidé sur le tournage. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans la réalisation d'Advent pendant que tu commençais à l'aider sur le travail de la Muse?
Ah ben moi c'est clairement son esprit à être capable de gérer 150 on va pas dire problème mais choses, éléments,
des défis.
Défis, c'est bon hein.
C'est vrai, oui.
Fait que c'est clair qu'il faut penser à tellement de choses qui se passent en direct, mais où en même temps il faut aussi avoir son découpage technique dans la tête, mm-hmm. pour savoir qu'est-ce qui s'en vient après. Mais fait que c'est ça, tu sais, je veux dire, Alban, ça fait quelques projets qu'on fait ensemble, fait que là, ben moi, je crois beaucoup en son talent puis en ses projets, fait que...
Oh, merci.
Ah, mais ni une ni deux, on se lance.
Mais effectivement, parce que t'as fait d'autres réalisations, notamment, il y a certains de tes films qui ont passé au Festival de films pour l'environnement, il y en a d'autres qui ont passé au cinéma Le Clap, celui de Sainte-Foy, dans le cadre des projections de Kino Québec, notamment. Tu gravites beaucoup dans le milieu Kino, est-ce que c'est comme ça que t'avais commencé à faire des films?
Oui, c'est totalement ça, parce que moi, je suis pas du tout de formation ou quoi que ce soit du cinéma. Je suis totalement autodidacte. Et quand j'ai découvert... Moi, je suis française, là. Je sais pas si ça s'entend dans la radio, probablement. Et je suis arrivée en 2018 et quand j'ai découvert l'existence de Kino et qu'en plus, il y en avait partout dans le monde, je me suis dit, dis donc... Faut se lancer parce que c'est exactement pour les gens qui sont pas de formation, qui sont pas du milieu, mais qui ont juste l'envie. Et ça m'a totalement parlé, en tout cas l'objectif de cette association. Donc ouais, et puis depuis j'ai fait donc je suis scénariste et réalisatrice principalement. Et puis j'ai fait pas mal de genres différents pour justement me tester, savoir qu'est-ce que je préférais faire, quel genre d'histoire, ouais. Donc ça a été assez varié et on apprend sur le tas avec des gens passionnés comme toi. Et puis je pense que c'est peut-être même meilleur qu'une formation.
Ben, sans nécessairement non plus remettre en question les formations qu'on a à Québec parce qu'elles sont quand même très bien. Effectivement, un constat que moi j'avais fait parce que je suis aussi du milieu du cinéma pour nos auditeurs, que j'avais fait quand même assez jeune et je suis content de l'avoir fait, c'était que c'est bien beau d'aller à l'école, c'est bien beau d'apprendre la théorie sur comment faire des films. C'est super le fun d'apprendre à faire des analyses. Ça peut nous permettre d'avoir un esprit critique et d'être un critique intéressant, mais c'est certain que ça ne remplace pas l'expérience terrain. Hein. J'ai envie de dire, quand t'as envie de faire des films, ben, parle pas de faire des films, va faire des films. Puis c'est justement ça qu'il y a derrière le mot d'ordre de Kino Québec, notamment, là, faire bien avec rien, mieux avec peu, mais le faire maintenant. Ce que ça signifie, en fait, c'est que même vous, les auditeurs à la maison, si un matin, vous vous levez, vous vous dites « Hey, ça serait le fun de faire un petit film », ben faites-le. Maintenant, les téléphones sont rendus suffisamment performants pour dire qu'on a une qualité d'image qui est pas tout à fait terrible. Si vous avez rien pour prendre le son, ben, des films muets, ça se fait. C'est tout un genre qui existe. C'est pas simplement quelque chose qui date de l'époque. On en a encore même en 2022, certains qui sont des films à succès même. Donc, il suffit de se lancer, n'est-ce pas?
Oui, puis si je peux appuyer ça, c'est exactement la mission de Kino Québec. C'est de se dire, toi comme Alban, c'est exactement ça, je pense, mais elle connaissait pas beaucoup de personnes. Elle vient une soirée Kino, on a quand même des belles séances de réseautage après les projections. Fait que je pense que de rencontrer du monde qui sont des fois au même stade, même d'autres plus professionnels, ben quand t'as une chimie, quand t'as une bonne vibe avec d'autres personnes, ben ça permet justement d'avoir quelqu'un d'un peu plus pro pour t'épauler. Fait que ça prend des projets que t'avais une bonne idée, mais là, voilà qu'avec la force du groupe, t'as vraiment une idée vraiment forte.
Mm-hmm. Ben, tout à fait, ça permet d'aider à se développer. Mais pour en revenir justement à ton projet, La Muse, comment est-ce que tu dirais que les précédents projets que tu as faits par le passé, je pense que la plupart sont indiqués sur un site web ou une page que tu as à ton nom, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Ben, j'ai répertorié tous mes films qui ne sont pas en train de concourir dans des festivals. Je les ai mis sur ma chaîne YouTube, Alban Fanny, donc tout simplement. Donc,
abonnez-vous!
Vous n'aurez seulement qu'à le taper. Mais qu'est-ce que tu crois que ces précédents projets-là t'ont amené au sujet de La Muse? Parce que pour ceux qui l'ignorent, La Muse, c'est une romance. Je te laisserai nous décrire un petit peu de quoi parle le film, le synopsis par après. Mais alors que tes précédents films, c'est pas nécessairement des romances. Hein? On touche un peu au drame, on touche un peu, des fois, un petit peu à la comédie. Mais en quoi est-ce que ça t'a permis d'évoluer jusque-là?
Oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est surtout les défis, comme tu disais, ou les obstacles qu'on a rencontrés sur les différents plateaux. Ça te permet de pas les refaire la prochaine fois. Donc apprendre sur le tas et puis apprendre de ses erreurs, je pense que c'est la meilleure école. Mm-hmm. Et aussi savoir s'entourer des bonnes personnes, connaître les points forts de ton entourage et puis les utiliser à bon escient. Et puis savoir toute l'organisation, aussi la pré-production aussi, à savoir, je me suis mal organisée sur ce film-là. Je ferais mieux, par exemple, la nourriture pour mes bénévoles, parce que tout est bénévole aussi. Niveau écriture, j'ai fait de la comédie romantique, mais genre cliché. J'ai fait l'expérimental, j'ai fait pas de l'horreur, mais un peu psychologique. J'ai fait énormément de choses différentes. Et puis, c'est vrai que mon écriture, c'est souvent sur... Moi, j'aime bien avoir des personnages complexes, en tout cas l'arc narratif de mes personnages rentrer à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai fait plusieurs muets aussi. Déjà, premièrement, parce que j'étais pas encore très bonne en son.
Ce qui est normal, en fait, j'ai envie de dire, la plupart des gens qui débutent, là, je vois beaucoup de films que l'image, elle est clean, clean, clean. Le scénario est très solide, mais le son, c'est un art qui est très pernicieux, en fait, parce que lorsque tu le fais mal, tout le monde est au courant. Puis lorsque tu fais vraiment bien ta job, il y a personne qui le sait, parce que l'objectif, c'est qu'on ne s'en rende pas compte.
Oui, absolument. Et puis, c'est vrai que cet obstacle technique du son, ça m'a permis de faire deux ou trois presque muets. Et finalement, tu mets l'accent sur le jeu des personnages et ça peut être vraiment quelque chose de bien, là, genre clip musical, et puis ça t'embarque pareil qu'un film avec des dialogues, quoi.
Notamment au niveau de tes personnages, parce que tu travailles avec des acteurs qui sont quand même assez professionnalisés, là. Je mentionnais tout à l'heure Jérémia Mogny, Delphine Hébert-Landré. Ce sont des acteurs et actrices qui sont de Montréal, qui ont quand même un bon CV derrière. Comment est-ce que c'était de devoir les diriger? Est-ce que c'est, pour toi, c'est quelque chose qui est venu naturellement ou ça a pris un petit moment d'adaptation?
La direction d'acteur, finalement, moi j'ai choisi déjà à l'audition des personnes où j'avais un bon feeling. Mmh. Je prenais pour le jeu, mais aussi il y avait une grande partie où tu sais que cette personne-là, ou en tout cas tu sens que cette personne-là va donner une bonne ambiance sur le plateau. Donc c'était assez naturel.
Superbe. Fait que t'as préféré privilégier ce qui apportait une bonne ambiance sur le plateau avant tout.
C'est ça, absolument.
Pour le monde à la maison, c'est quoi l'histoire?
Oui, donc la muse, c'est l'histoire de Léo. C'est un artiste peintre qui est en panne d'inspiration. Et il rencontre un soir Sybille, qui est une jeune actrice qui a essuyé un début de carrière chaotique et qui vient se réfugier à Québec pour l'été. Et donc, ils vont apprendre à se connaître. Ils vont rapidement se rapprocher et vivre comme ça une idylle, un amour d'été. Et puis, Léo va retrouver l'inspiration auprès d'elle parce qu'elle devient sa muse. Il va reprendre confiance en sa peinture, mais un beau jour, l'été se finit. Donc, si vous voulez savoir comment ça finit, il faut aller voir le film. Ou il faut déjà que je finisse de tourner, et après, vous irez voir le film.
Ah, si vous voulez prendre un petit peu d'avance par rapport au film, c'est toujours possible d'aller aider au socio-financement que je mettrai sur la page Facebook tout à l'heure. Donc, le socio-financement qui est encore actif, je crois, pour trois jours.
C'est ça, trois jours. On avait un objectif de 2 500 $, alors que ça tourne quand même... Pas mal plus le budget global du film, mais ça a très bien fonctionné. On a bouclé ce premier objectif-là en 45 jours. Et là, il nous reste 3 petits jours pour grappiller encore un peu des dons pour nous aider pour la distribution du film, etc.
Effectivement, parce que j'ai vu hier en regardant que vous êtes rendu à 104% de votre objectif.
Ouais,
puis
absolument.
Juste pour remettre en perspective un petit peu à nos auditeurs, lorsqu'on parle évidemment de budget de cinéma hollywoodien, c'est pas du tout les mêmes chiffres qu'on va aller chercher. Mais lorsqu'on est capable d'aller rassembler 2 500 $ pour du court-métrage dans la ville de Québec, c'est quand même une assez belle victoire. Ouais. Là. C'est pas quelque chose qui est facile à aller chercher. On a plus d'une trentaine de contributeurs qui se sont lancés et d'autres encore qui vont arriver, j'imagine, dans les prochains jours. Donc, ça va assez bien de ce côté-là. Ouais.
Parce qu'il faut quand même préciser que c'est de l'autofinancement aussi. Mm-hmm. Hein, fait qu'il y a pas de, d'institution qui nous aide...
Oui, c'est ça. Après, nous, déjà, premièrement...
Je veux dire, on a de l'aide en matériel de Spira et tout ça, mais je veux dire, c'est quand même nous qui défrayons les...
Oui, absolument.
C'est dans ce sens.
Moi, je tiens à remercier déjà, premièrement, à la radio, tous les gens qui ont contribué. C'était super généreux et ça nous encourage à faire un film merveilleux. Et puis, c'est vrai qu'on a eu pas mal... Même si elles n'ont pas contribué sur le socio-financement, on a eu quand même... Les personnes qui s'occupaient des lieux de tournage nous ont fait parfois des rabais assez conséquents. Parce que justement, on a pris le temps d'expliquer le projet, que c'était bénévole, que justement, ça faisait développer la passion du cinéma indépendant à Québec et que tout ne se passe pas à Montréal. Donc,
exact, ça permet d'éviter qu'on ait une exode des talents qui est faite. Puis ça, c'est quelque chose, je pense, sur lequel la Ville de Québec travaille de plus en plus. On a notamment le bac en cinématographie qui va arriver cette année. On en parlait depuis une vingtaine d'années. Il était temps que ça commence à arriver plus que ça.
Ouais, hein?
Moi, je suis au courant. Je pense que ça date d'avant ma naissance, donc on remonte à loin. Puis d'avoir des projets comme ça, c'est ça qui fait qu'après, lorsque tu as terminé tes études, tu es capable d'avoir de l'expérience sur les plateaux de tournage. Je sais notamment qu'il y avait d'anciens étudiants de l'Université Laval qui avaient travaillé sur ton projet en figuration, notamment. Peux-tu nous parler un petit peu de comment c'était aussi côté figuration?
On a eu deux grosses scènes. Le premier jour du tournage, on a eu une scène de discothèque où il fallait remplir la discothèque et une scène de cocktail dans le centre Morin, donc dans la super belle bibliothèque qu'ils ont à disposition pour les tournages. Donc, on avait finalement, à la soirée du cocktail, on a eu une quarantaine de figurants. Le fait est qu'on a tourné vraiment fin juillet et il faisait hyper chaud déjà la journée. Et on s'est dit, au moins on sera à l'intérieur pour ce soir, on sera au frais. Puis en plus, on sera 40 personnes, donc ça sera bien. Et puis en fait, on est arrivé et c'est hyper lumineux. Il y a beaucoup de fenêtres et ils n'ont pas la clim. Et en fait, on est arrivé, c'était un four. Et on s'est dit, oh là là, on va remplir ça avec 40 personnes, ça va être horrible. On a tenu le coup parce qu'on a travaillé bien 4-5 heures dans la chaleur et personne ne s'est plaint. Il y avait une super ambiance. Mmh. Tout le monde était volontaire, motivé. Vraiment, c'était une super expérience. Il n'y a eu aucun problème, les figurants, ils ont été vraiment super.
La légende raconte que l'un de tes figurants a été obligé de changer de chandail deux fois parce qu'il avait trop chaud. Il s'agit de moi. mais justement, tu nous parles du fait que tu avais tourné dans le Centre Morin, des lieux qui sont de Québec. Tu as choisi de tourner majoritairement à Québec. Est-ce que ça serait parce que tu es en train de tomber en amour avec notre ville?
Ah, ben, je ne suis pas en train, là. C'est déjà passé depuis un bout.
C'est conquéri. Finalement, c'est avec la ville de Québec ta romance.
Mmh. Ben, j'habite sur la rive sud, à Lévis. Et mes premiers cours, je les avais tournés presque tous à Lévis. En fait, tout simplement parce que moi, je suis inspirée par mon environnement immédiat. C'est sûr que si on me donnait du budget, moi, j'irais tourner au fin fond des montagnes. Moi, j'adore de filmer à l'extérieur, donc c'est sûr que... Moi, je préfère l'extérieur à l'intérieur. C'est beaucoup plus compliqué niveau technique, mais je préfère l'extérieur. Et puis, c'est vrai que les panoramas, déjà, au bord du fleuve, tu fais n'importe quelle scène, c'est magnifique. Ouais. Mais je me rappelle d'ailleurs une anecdote. Oh. Le tout premier film qu'on a fait, on avait tourné au mois de novembre. On avait tourné au bord du Saint-Laurent, sur la plage de Cailloux, à Lévis. Et il faisait moins 13, il y avait énormément de vent et on avait, pareil, une dizaine de figurants, on avait des enfants dans le froid pendant 2 heures.
Non, et puis Jeff Lemay, notre acteur dans les principaux, il avait un manteau de printemps, on était comme, oh mon Dieu.
Ça, ils n'étaient pas totalement bien équipés.
Non. Jeff, qui soit dit en passant, est un acteur avec une carrière qui roule quand même assez bien. Là. Des rôles principaux dans des séries Novo, il a fait aussi un petit peu de figuration du troisième rôle dans District 31 ou Unité 9, je ne sais pas tout à fait ça.
Il tire sa carte. C'est le fun pour lui de voir sa progression aussi.
Oui. Comme de quoi, les réalisateurs et réalisatrices de la Ville de Québec travaillent avec d'excellents acteurs, d'excellents comédiens. Mais justement, si on a envie de faire comme toi, Alban, c'est-à-dire pas nécessairement partir de la France, venir à Québec, là, mais se lever un matin puis se dire, bon, ben moi aussi, j'ai envie de faire des films, moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose pour nos auditeurs, ça serait quoi les conseils que tu leur donnerais afin qu'ils puissent faire comme toi au final?
Le moment déclencheur, moi, ça a été ma rencontre avec Kino. Donc, premièrement, aller à une projection Kino Québec et puis faire le réseautage ensuite. Ça, c'est la première des choses. Commencer à faire son réseau le plus tôt possible. Tu peux commencer à faire des films tout seul avec ton cellulaire, comme tu disais. Moi, en période de pandémie, j'ai fait un film entièrement chez moi, à huis clos, avec ma fille en comédienne, avec un smartphone. Et ce film-là, justement, comme tu disais, a été sélectionné au Festival du film pour l'environnement cette année. Donc, tout est possible. Mais je te dirais, en premier lieu, faire du réseautage et ne pas négliger la pré-production, donc toute la préparation avant le tournage, parce que c'est ça que tout le monde veut faire. Il veut tout de suite tourner, mais non, il faut se préparer un minimum quand même.
Bien entendu, hein, parce que ça, c'est quelque chose auquel on pense pas assez. Mais notamment, lorsqu'on va tourner en extérieur, ça n'existe pas, les prises de courant dans la nature. Donc, il faut penser à avoir que ce soit des batteries supplémentaires, des génératrices, ce genre de choses-là. Ça demande une bonne préparation, surtout si tu veux faire quelque chose qui a quand même un certain cachet. Tu peux pas juste arriver puis dire « Hey, OK, gang, on s'en va filmer dans la forêt. » Oui, mais il faut que tu acceptes qu'il y a des contraintes que tu ne pourras pas accomplir.
Oui, la forêt, nous, on va tourner ça dans 1 heure en plus. On va faire un nouveau film là, pour le défi 2 minutes.
Oui, si on peut bander sur le défi 2 minutes.
Oui, parle-nous de ça, Louis.
Tabarouette, savez-vous quoi?
Non, quoi? Tu vas nous le dire.
On s'est rendu compte que Kino Québec puis Kino Montréal, là, ça fait au moins 20 ans que se sont pas parlé. Fait qu'on remercie Paul Landriot, qui est programmateur au FCVQ, qui est le festival de cinéma de la ville de Québec, qui s'est dit, crème, pourquoi pas faire une rencontre pendant le festival de cinéma où ce que les meilleurs films de Québec vont rencontrer les meilleurs films de Montréal.
Ouh.
Avec naturellement un petit penchant pour Québec. Là. Fait que le 9 septembre, il va y avoir une soirée à l'Impérial à 7h. Ça va être exactement présenté sous forme de combat. Des rounds. On va appeler ça des rounds.
Un challenge.
Ouais, sur des thématiques que je vous dis pas tout de suite.
Des thématiques bien drôles quand même.
Ouais, des thématiques quand même amusantes où ce que les films vont se connecter, Mais on ne veut pas vous dire tout de suite les thématiques parce que c'est ça qui est un peu amusant. Mais en parallèle, vu qu'on voulait avoir plein de monde de Montréal puis plein de monde de Québec, ben on s'est dit, Jared Man de Kino Montréal a proposé de faire des défis. Fait que là, pour l'instant, c'est carrément un appel, en fait. Faites des défis, 2 minutes, envoyez-nous ça. Vous allez voir sur la page Kino Québec sur Facebook. On a mis toutes les informations, tous les détails importants. Puis dans le fond, c'est 2 minutes, la thématique Québec-Montréal. Puis après ça, on va faire une belle projection le 9.
Pour nos auditeurs et auditrices intéressés, sur Facebook, ça va être Kino Micro Cinéma de Québec, ou sinon, vous pouvez aller directement sur la Kinosphère. Généralement, il y a des réalisateurs, des réalisatrices, des acteurs, bref, tout plein de gens, tout plein de cinéastes de la ville de Québec qui veulent se lancer dans des projets et qui sont prêts à accepter des coups de main. L'important, c'est que vous soyez transparent avec eux et que si vous n'avez aucune expérience, vous n'hésitez pas à leur dire « je n'ai aucune expérience, mais je suis là pour apprendre » et que vous ayez une bonne ambiance. Superbe. Eh bien, est-ce que vous avez autre chose à rajouter par rapport à ce qui touche à la muse? Il nous reste encore 2 minutes, 3 minutes avant d'aller à la pause, parce que c'est quand même un gros projet. Puis je vois qu'au travers de ce que tu filmes à la muse, tu continues de faire d'autres projets au travers de ça. Donc,
oui, c'est ça. On a participé au cabaret de Saint-Casimir pour le FFPE. On s'en va tourner pour le défi 2 minutes. Et puis, début septembre, donc la semaine prochaine, on va faire le deuxième bloc de tournage pour la muse. Justement, il nous reste les 2 jours sur 4 à tourner. Donc, toutes les scènes qui nous manquent, c'était les scènes dans l'appartement de Léo. Donc, on va faire ça dans le quartier Saint-Roch. Donc, on a bien hâte de se retrouver un mois plus tard. Et puis, je suis sûre que ça va être la même ambiance. Donc, avec Jeremiah Money et puis Stéphanie Morin qui joue Sibyl. Deux jeunes talentueux, très prometteurs.
Ah ouais, puis c'est ça. Puis, tu sais, c'est bête, mais comme c'est tellement le fun de pouvoir compter sur des bons des acteurs, des bons acteurs.
Qui ont de l'expérience, qui savent c'est quoi travailler avec une caméra.
Puis on le voit tout de suite, hein. Mettons, avec Jeff ou avec tous les autres acteurs dans notre gang, on est quand même bien. Il y a des très bons acteurs à Kino. Mais tu te dis.
C'est au niveau du protocole.
Là. Ouais. Tu sais, dans le sens que tu dis. Dis que t'as faim, ben là il va dire qu'il a faim, mais dis-le avec un petit peu plus d'intensité, mais tout de suite quand ils deviennent une espèce d'aisance, puis ils sont capables de mettre la texture dans leur manière de jouer, puis c'est vraiment le fun.
Ouais, d'où l'importance de faire des auditions. Moi j'ai fait une période d'audition d'un mois. Et j'ai fait... après, on a fait tout un week-end. On a passé une vingtaine, 25 peut-être personnes pour tous les rôles, les 5 rôles parlés. Et puis, on a ensuite fait un deuxième round, vu que c'était un couple d'amoureux qu'on castait. Mm-hmm. Individuellement, ils étaient très bons, mais il fallait valider l'alchimie. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que pour ce genre de projet, il ne faut pas négliger les auditions et puis tester, voir si justement l'acteur ou l'actrice peut... écouter et mettre en application les indications du réalisateur ou du directeur d'acteur. En tout cas, ceux que j'ai choisis, ils ont fait exactement ce que je voulais. Ils m'ont même fait d'autres propositions que j'ai trouvées meilleures que les miennes. Donc, c'est un échange finalement. Parce que oui, je peux être la chef d'équipe, j'ai le lead, mais c'est toute seule, je peux pas faire grand chose. En tout cas, j'aurais jamais fait la muse toute seule. Donc, c'est un travail d'équipe avant tout et c'est un échange, quoi.
Formidable. Eh bien, c'était un plaisir de vous avoir. Si jamais à la maison ou dans vos voitures, vous avez envie de financer La Ruche, commencez par arriver chez vous en premier. Mais n'hésitez pas à aller sur La Ruche, tapez la muse d'Alban Fanny.
La muse court-métrage, oui.
Ouais, et vous devriez être capable d'aider ça. Il y a des petits goodies, des petites récompenses pour les donateurs qui sont au-dessus de 30$, il me semble.
Oui, c'est ça, des contreparties, des noms génériques, des croquis donc qui vont figurer dans le film. On a l'affiche du film. On a des places pour l'avant-première qui se passera à l'automne à Québec ou à Lévis, on ne sait pas encore. Mais il y a pas mal de contreparties très intéressantes et créatives en tout cas.
Formidable. Et nous, on se revoit après la pause pour parler notamment d'Enola Holmes, la série Netflix qui nous sera racontée par les yeux de Maya Fizet, notre jeune chroniqueuse de 14 ans. Et on se dit à tout à l'heure après la pause.
Depuis 25 ans, nous, on y passe à autre chose.
Ah yeah, yeah, ah yeah, yeah. 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
Écoutez toujours des Kiwi Dinners à HS 94.3.
Moi et la console radio avons eu une petite discussion et nous en sommes venus à la conclusion que ce n'était pas terminé et qu'elle pouvait nous aider à relancer le jingle pour ce midi. Donc, je tiens cependant à corriger ma langue fourchée. Enola Holmes, il s'agit d'un film et simplement la suite de ce film va sortir prochainement sur Netflix. De là, ma petite confusion. Donc, Maya, tu peux nous en parler
Ouais, ben exactement. Je vais vous parler de la sœur de Sherlock Holmes, en fait. Tout le monde connaît le nom de Sherlock Holmes, mais je pense pas que tout le monde connaît Enola. Enola, en fait, c'est la jeune sœur de Sherlock et Mycroft, qui ont respectivement 20 et 27 ans de plus qu'elle. Elle est aussi née en juillet 1874. Mais ces informations-là n'ont aucun rapport, c'est juste...
Ben, y a quand même une petite pertinence dans la mesure où le statut des femmes n'était pas tout à fait ce qu'il
voilà,
était.
Voilà, c'est juste intéressant à savoir, elle est née en 1874, puis elle est plus jeune de... Elle est quand même vraiment plus jeune que
Sherlock.
C'est
sa très petite sœur, ouais.
En fait, les enquêtes d'Enola Holmes, c'est une série qui est dérivée des romans d'Arthur Conan Doyle. d'Arthur Conan Doyle.
Conan Doyle.
Exactement. Puis, qui c'est les aventures de Sherlock Holmes, mais qui ont été reprises par Nancy Springer. Puis, c'est elle qui est l'autrice d'Enola Holmes. Les romans sont parus en 2006. Et pour l'instant, il y a 7 livres. Je pense que la série est terminée aussi.
OK.
7 livres. Là, il y a aussi eu des BD qui sont dérivés des romans. Et aussi un film, justement. Et là, un deuxième film bientôt. Puis c'est pour ça que j'en parle. Dans le film et dans la BD, l'histoire est sensiblement la même. Mais ils ont changé l'âge du personnage parce que dans la BD, elle a 14 ans. Mais dans les films, elle a 16 ans parce que l'actrice Millie Bobby Brown est comme... elle a comme 20 ans. C'était un peu compliqué. Et aussi, dans le film, l'univers est un peu plus vaste que dans les BD, parce que dans les BD, il y a 4 ou 5 lieux distincts, puis l'histoire se passe dans ces lieux-là. Mais dans les films, je pense que ça change de pays à un moment donné.
Okay.
Elle prend le train, elle s'en va à d'autres endroits. Il y a vraiment plus de lieux, puis l'univers est vraiment...
plus exploré.
Plus exploré, justement. Puis aussi, c'est plus coloré, puis plus entraînant, parce que... ben, c'est plus beau comme ça que...
Ouais, ben en fait, le fait qu'au niveau de l'adaptation, on puisse voir plus de coins de pays, c'est aussi agréable parce que lorsqu'on lit un livre, on peut s'imaginer plein de lieux différents, mais si on ne voyage pas un petit peu lorsqu'on passe au niveau cinématographique, on n'a pas à s'imaginer, on voit les choses.
Ouais, exactement. Ben moi, j'ai beaucoup aimé le film parce qu'il y avait de l'action, du mystère, puis aussi parce que j'aime quand même l'ambiance du 19e siècle, mais j'ai vraiment moins apprécié la BD. Mais c'est des goûts personnels. On peut très bien apprécier la BD puis moins aimer le film, mais personnellement, j'ai plus apprécié le film. Et même si les dessins ils sont beaux, puis c'est écrit pour que tout le monde comprenne, il y a des petites étoiles par des fois, puis ça s'en va au bas de la page, ça t'explique un peu qu'est-ce que c'est ce livre-là qu'elle parle, ou c'est qui cette personne-là.
Ouais.
Mais de la manière que c'était écrit, j'ai moins apprécié ça parce que c'était écrit plus pour que des jeunes enfants comprennent. Et... c'est moins mon genre de lecture. Mais... ouais.
Donc au final, la bande dessinée semble être plus destinée à un public de jeunes enfants, d'adolescents. Là où est-ce que tu as l'impression que le film va chercher un public cible qui est différent ou tu as l'impression que ça serait globalement la même chose?
C'est globalement la même chose, c'est juste que je trouve que dans le film, c'est mieux apporté. Parce que dans le film, Enola va parler à la caméra. Ça va être plus spontané puis plus dynamique un peu justement avec les couleurs vives de l'histoire parce que le décor il est vraiment fait avec des couleurs qui ressortent vraiment beaucoup. Il y a du bleu, il y a du rouge. Puis dans la BD, c'est vraiment plus sobre puis c'est comme tout est un peu brun, gris. C'est moins entraînant. J'ai trouvé ça juste moins agréable que dans...
Ça vient moins titiller les yeux.
Ouais, exactement. Mais encore une fois, c'est juste un goût personnel parce que je sais que ma petite sœur a lu les Enola Holmes et elle a vraiment apprécié, mais moi, j'ai juste moins accroché dans les BD.
Ouais, c'est une question de préférence stylistique aussi, dans une certaine mesure.
Je peux pas parler des romans, malheureusement, parce que je les ai pas lus.
De toute façon, avec 7 romans qui, j'imagine... parce que si on fait un film de 2h30 sur un roman, c'est que le roman est particulièrement long.
Ouais, c'est des assez gros romans, puis justement, il y en a 7. Puis dans chaque roman, je pense qu'il y a une histoire différente. C'est quand même assez long à raconter. Mais si, justement, vous aimez Sherlock Holmes, puis les mystères à Sherlock Holmes... Ouais, exactement. Vous allez apprécier Enola Holmes, mais si c'est moins votre genre, j'ai un autre argument... C'est que dans Enola Holmes, il y a beaucoup de... On apprend beaucoup de choses sur le féminisme du 19e siècle avec les suffragettes. Puis aussi, on parle de dans la BD. Enola va nommer plusieurs livres d'autrices féministes.
Mm-hmm.
Et justement, dans le premier film, j'ai pas vu le deuxième film parce qu'il est pas sorti.
Il est pas encore sorti, c'est forcément. Si jamais t'avais vu le deuxième film, je t'aurais demandé c'est quoi tes sources.
Netflix.
C'est qui tes contacts?
Non, mais j'ai pas vu le deuxième film, donc je peux pas savoir ce qui se passe vraiment. Mais dans le premier film, l'histoire tourne un peu autour justement de la mère qui est féministe et qui justement disparaît.
Okay.
Donc, justement, on en apprend pas mal sur justement les femmes au 19e siècle parce que c'était. Les femmes au 19e siècle n'étaient pas très.
Disons que côté droit de vote, droit des libertés, tout ça, c'était pas.
Il n'y avait pas tant de droits que ça, donc c'est quand même bien que dans un film qui se passe à cette époque-là, on ait plus justement de femmes. Et d'histoire qui tourne là-dessus.
Et surtout, c'est quelque chose qui va venir faire écho avec ce qui s'est produit au Québec, parce qu'au Québec aussi, on a notamment eu notre propre mouvement suffragette. Puis tiens, je veux dire, ils ne peuvent plus nous entendre parce qu'aujourd'hui, ils sont décédés, mais si vous me permettez une expression très 2022, big up à elles qui nous ont permis de faire évoluer les mentalités. Puis c'est grandement grâce à elles, en fait, si aujourd'hui, on est capable de pouvoir discuter plus ouvertement de ces sujets-là, d'aller chercher plus de tout ce qui concerne la liberté, c'est grâce à leurs écrits, c'est grâce à leurs actions, c'est grâce à leur militantisme. Puis militantisme, tu connais un peu ça, parce que toi-même, tu vas à des manifestations, puis tu as participé à Salut Gadou, qui est un film militant, au final.
Ouais, exactement. Mais c'est ça, c'est justement grâce à ça qu'on peut voir des films comme ça, puis je trouve ça quand même bien qu'ils en parlent, puis que ce soit justement le sujet du film, sans justement que ça tourne juste autour de ça. Ça, il y a aussi des enquêtes, puis il y a de l'action. Puis c'est pas juste « Ah, nous sommes des femmes, on veut des droits ». Il y a d'autres affaires, puis ça montre que les femmes sont capables de faire les mêmes travails que les hommes. Comme Sherlock Holmes est un enquêteur, Enola Holmes aussi, puis c'est sa petite sœur, donc c'est quand même bien.
Puis aussi, pour la petite anecdote, c'est drôle parce qu'au final, elle est capable de faire les mêmes choses que Superman, parce que dans le film Enola Holmes, en fait, Sherlock Holmes est joué par Henry Cavill. Henry Cavill, qui est notamment Geralt de Rivière dans The Witcher, et qui joue Superman dans les très peu appréciés films de DC, mais tout de même, c'est quelque chose à noter.
Ouais, exactement. Ben, si vous voulez justement écouter le premier film Enola Holmes, il est déjà disponible sur Netflix depuis, je pense, 2020. Et le deuxième film sort le 4 novembre, donc c'est quand même prochainement.
Superbe. Est-ce que tu avais d'autres petits éléments à nous rajouter concernant tout ce qui touche Enola Holmes, ton appréciation personnelle, notamment, comment est-ce que tu as trouvé le jeu d'acteur de Millie Bobby Brown?
Ben, moi, j'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur parce que, déjà, je suis Stranger Things, donc je connaissais déjà un peu l'actrice.
Ouais.
Mais...
tu portes notamment ton chandail de Hellfire Club.
Oui, en effet. J'avais un peu oublié ce détail-là. Mais, justement, moi, j'ai aimé le film, mais j'aime l'univers, puis c'est le genre d'histoire que je vais écouter, donc...
Formidable. Et justement, à savoir qu'autour de la table ici, il n'y a que des gens qui ont fait du jeu de rôle. Et pour parler de jeu de rôle, on a notamment avec nous notre chroniqueur habituel, Nassim. Donc, bonjour, Nassim.
Salut à tous. Donc, je viens de rejoindre les micros. Merci pour l'accueil. Ça faisait un petit bout. Ça m'a manqué, la radio. Vive la radio, vive Cheese, vive des Kiwis, des Nerds.
Et donc, aujourd'hui, en termes de chronique, Nassim vient nous parler de la toute première partie de Donjons et Dragons qu'il a fait avec lui, mais ça sera une chronique un peu conjointe. Tu pourras aussi venir faire des parallèles avec la première partie que toi-même t'as fait, Maya, au Centre du Rocher, il me semble.
Ça se peut.
Parce que tu viens nous... Toi, c'est pas quelque chose que t'as nécessairement le temps de faire sur une base régulière du Donjons et Dragons, mais t'as quand même vécu quelques petites expériences, Nassim.
Ben oui, effectivement. Bon, déjà, moi, mon expérience avec les Donjons et Dragons, un peu, je dirais, est comme on and off, dans le sens, ma vraie première partie, j'avais 14 ans, là, c'était à l'entre-classe.
Ah, à l'école Joseph-François Perrault, oui.
Exactement, donc ça, c'était vraiment ma vraie première expérience de Donjons et Dragons, donc je devais avoir 14 ans. Donc là, on jouait avec des personnages, là, dragons, puis des trucs comme ça.
Les dragonnés, les elfes, les nains. Là, on était vraiment dans Donjons Dragons 5.0. Lorsque la partie que toi, t'avais fait avec moi, on n'était pas du tout dans un... C'était un système que j'avais créé, en fait.
Exactement. Honnêtement, c'est ça. Moi, j'étais vraiment jeune quand j'avais joué au Donjons Dragons. J'avais bien apprécié, mais moi, ça ne m'a pas rejoint, par exemple, autant que Jérémy. Parce que,
j'en ai fait mon métier.
Exactement. Tiens, on était littéralement dans la même entre-classe ensemble avec d'autres jeunes. Donc, on avait fait quelques parties, là, je m'en rappelle. Je n'avais pas fini le mode histoire. Moi, j'ai décroché assez rapidement. Ce n'est pas parce que je n'aimais pas ça. C'est parce que, je dirais plus, que je ne comprenais pas ça. Mm-hmm. Puis, je pense, justement, le but de ma chronique ici, c'est plus, justement, d'apporter cette insight-là, ce point de vue-là. C'est de montrer, c'est ça, c'est que des fois, en fait, tu fais un truc vraiment cool, mais tu t'en rends pas compte parce que tu es trop jeune, puis tu comprends pas trop à quel point c'est génial. Donc, ma vraie première partie de Donjons et Dragons, on va dire, c'était avec Jérémy, donc il y a quelques années quand même, où là, bon, j'étais un adulte, là, donc j'allais avoir 19, 20 peut-être.
On avait dans ces eaux-là, en fait.
Exact, 19, 20. Puis là, bon, là, c'était une soirée chez un de ses amis. Puis bon, c'est Jérémy qui a fait toute l'organisation. Donc, tu sais, on avait de la musique, on avait... tu sais, c'était super bien organisé.
Ben, on avait de la musique, j'avais préparé l'histoire. Mm-hmm. Aussi, je m'étais gardé une certaine fluidité parce qu'en fait, le truc qu'on fait des parties de Donjons Dragons, puis ça va vous ramener à une chronique que j'ai fait il y a deux mois. Ce qui est important, c'est de ne pas trop planifier parce qu'en fait, si vous planifiez trop, vous devenez rigide et vos joueurs, eux, ne savent pas qu'est-ce qui est planifié et ils vont avoir des idées auxquelles vous n'aurez pas pensé. Fait que je m'étais quand même laissé un certain jeu, c'est-à-dire que je savais tel personnage réagit comme ça s'il se passe tel événement. Puis à partir de ça, je sais comment il va réagir si des événements différents se produisent, notamment.
Exactement. Puis un truc qui m'avait marqué à ce moment-là, puis je pense que ben, ça c'est plus un message pour tous les maîtres du jeu, c'est en fait autour de cette table-là, on avait différents niveaux de joueurs de D&D. Mm-hmm. Moi j'étais un novice là complètement, je suis complètement débarqué à cette époque-là, je vivais plus à Montréal qu'à Québec, puis donc je suis venu genre un soir, puis j'ai dit tu fais quoi, il m'a dit je vais jouer à Donjons Dragons, tu veux-tu venir, j'ai fait ok, donc quasiment aucune préparation de ma part. Bon, on a fait une petite préparation, mais c'est pour dire que on avait plusieurs personnes de niveaux différents. Mm-hmm. Mais je me sentais vraiment à l'aise, c'était vraiment cool. Bon, malheureusement, Jérémy pouvait pas truquer les dés, parce que moi, je suis pas chanceux, donc il m'a vraiment donné un personnage overpower. Puis je lançais toutes les dés du monde, puis ça marchait pas. J'étais ridicule, mais j'avais prévu le coup, donc je jouais un clown. Donc bon, ça marche bien avec le personnage, là, un vrai clown. Je réussissais rien. Je lui ai dit, moi, je suis pas bon dans ces jeux-là. Donc, c'est vrai que je suis pas bon, j'ai pas de chance. Donc, je suis pas bon dans ces jeux-là. J'ai dit, mec, je peux rien faire. Il me dit, t'inquiète, je te donne tous les pouvoirs que tu veux. Tu vas réussir.
Ça n'a pas suffi.
Il essayait de tout faire pour que je meure pas. Il dit, ok, bon, là, il a perdu, genre, je sais pas, son bouclier ultra puissant. C'est pas grave, il y a encore, genre, son épée ultra puissante. Tu sais, ça marchait. Pas,
c'est
là.
Pas sauvable.
À un moment, il me regarde droit dans les yeux et me dit c'est fini, hein. Tu sais, j'ai jamais lancé genre 4 fois genre des fails critiques, là. C'est honteux.
Pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, dans le fond, moi, c'est un système à D100 que j'avais fait. Dans les systèmes à D100, 96 à 100, c'est un échec critique. 1 à 5, c'est une réussite critique. C'est-à-dire que c'est vraiment dur là, d'avoir un échec critique. Là. Les probabilités que ça se produise, en fait, sont de 5%. Wow. Puis j'avais donné toutes les stats. C'est-à-dire qu'il fallait tout le temps rouler en bas de la stat qu'il possède afin de réussir. Je pense que la totalité de tes stats était genre à 85 et elle passait à 95. C'est-à-dire que la seule manière que tu puisses échouer, c'était de faire des échecs critiques parce que tu avais une armure un peu spéciale et justement tu jouais un clown, un Pierrot, parce qu'on était dans l'univers de Tokyo Ghoul. C'était une partie que j'avais fait avec des amis et je crois que c'était celle qui se produisait. On avait fait que ça se passait en Espagne parce qu'on voulait suivre un peu le canon du manga Tokyo Ghoul sans nécessairement non plus venir l'altérer. Donc il n'y avait aucune raison en fait pour que son personnage ne soit pas extrêmement fort et surtout c'était qu'on avait planifié que tu deviennes le boss battle de cette soirée-là. Tu étais censé être le combat final de la soirée parce que l'objectif, c'était justement de surprendre les joueurs, en fait, pour que la prochaine fois que j'apporte d'autres joueurs, ils aient quand même dans leur tête l'idée de « Ah, mais peut-être que cette personne-là, ça va être le boss de fin au final, parce que je voulais les stresser un peu. Mais au final, ben, c'est ça. Hein, toi et les jets de dés, c'est pas une histoire d'amour.
C'est ça, ça a pas marché. Bon, malheureusement, depuis ce temps-là, j'ai pas refait de game. J'ai pas eu le temps encore, mais c'est dans les projets, je pense, parce que ce que j'aime dans Donjons & Dragons, puis c'est une optique un peu déjà que j'aimerais mieux à explorer, je pense, ici au sein de la radio, c'est que ça crée des liens entre les gens. Mm-hmm. Vous allez être confronté à des situations que vous n'allez pas nécessairement être confronté dans la vraie vie. Et donc, c'est intéressant d'explorer ça justement avec vos amis. C'est-tu des vrais amis ou.
C'est ça, exact. Est-ce qu'ils ont mon dos ou ben est-ce qu'ils vont planter une dague? Non, mais effectivement, c'est quelque chose que j'avais exploré, puis sans nécessairement dire que parce que ça fonctionne pas dans Donjons Dragons, des fois, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes intérêts, mais ça peut effectivement permettre de développer les liens, parce qu'au final, c'est de l'imaginaire, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Quand on dit Donjons Dragons, comprenez qu'on parle de jeux de rôle sur table en général, c'est juste que pour la moyenne des gens, si je parle de l'appel de Cthulhu ou de n'importe quel autre jeu de rôle sur table, bah, ça vient pas sonner une cloche au même titre que si je parle de Donjons Dragons.
Ben c'est ça, puis je pense honnêtement, Ma première expérience, quand j'avais 14-15 ans, c'était plus moi l'univers un peu comme des dragons, des sorciers. C'est pas un univers qui me rejoignait, je dirais. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai quand même un vif souvenir de jeunes. Là, quand on était jeunes, tu sais, ils s'obstinaient sur genre la longueur de la boule de feu. Puis,
ouais, ouais.
Tu sais, la boule de feu, elle fait-tu 4 cases, 3 cases,
2 cases? Elle en fait
3. Tu sais, c'était ça. Puis moi, j'étais genre, OK, mais on peut-tu comme passer à autre chose? Là?
Ouais.
Fait que là, c'était un peu ça mon souvenir. Fait que moi, c'était pas quelque chose qui me rejoignait, honnêtement. Fait que c'est pour ça que, comme je vous dis, quand j'ai grandi, là, j'ai découvert en fait, ah non, c'est pas juste les boules de feu, là. Ça peut être Tokyo Ghoul, ça peut être l'appel de Cthulhu, ça peut être...
Même un système de Game of Thrones qui existe.
Exactement, ça peut être sous tellement de formes différentes qu'au final, j'ai quasiment envie de dire, tu peux pas détester ça, tu peux pas ne pas aimer ça dans le sens où, tu sais, il y a bien quelque chose que t'aimes, OK, ben on va le faire de cette manière-là, tu sais. Est-ce que, ça c'est une question, est-ce qu'on pourrait peut-être dire que Loup-garou, c'est un peu un jeu de rôle?
J'ai envie de dire, Loup-garou, c'est... Dans les non-jeux de rôle, c'est probablement ce qui s'en rapproche le plus, là.
C'est ça, exact. Fait que, tu sais, pour les gens, par exemple, qui sont pas initiés, j'ai envie de vous dire que quand vous jouez au Loup-garou, tu sais, c'est un peu un jeu de rôle. Vous vous prenez pour un villageois ou pour un Loup-garou, là. T'es pas un Loup-garou pour vrai, là.
Non, exact. Puis, tu sais, notamment, Maya, j'y pense, mais toi, t'avais commencé avec Donjon Dragon 5.0. Puis, parce que je sais que toi puis ton groupe, vous aimiez un peu plus les puzzles, tout ça. Bon, on parlera pas du fait qu'il a fallu que je me développe des puzzles avec le temps, parce que moi, c'était pas du tout ma force, ça, on peut oublier.
Non.
Mais on avait fini par faire de l'appel de Cthulhu, justement. Puis, c'est aussi ce qui m'avait permis de... Ça avait été une anecdote, c'était ton groupe qui m'avait permis de sortir de ma zone de confort, parce qu'habituellement, les puzzles, j'en ai très, très peu. Mais ça m'a forcé à acheter des manuels de jeu comme Xanathar, qui lui, contient des puzzles, des énigmes, en fait, pouvoir m'en inspirer. Puis je pense que c'était quelque chose qui t'avait plus rejoint, parce que l'appel de Cthulhu, vu que c'est de l'enquête, vu que c'est du mystère, il y a du puzzle, je pense que c'est quelque chose qui allait te chercher un peu plus.
Ouais, exactement. Puis c'était quand même le fun, sauf que moi aussi, j'étais le joueur vraiment pas bon. Puis en fait, moi, je donnais les plans foireux, les autres le faisaient. Puis j'avais des échecs critiques. J'ai eu un 100.
C'est vrai qu'au niveau des jets de dés, ça allait pas du tout, toi aussi. Au final, vous êtes capable de vous comprendre, vous
non,
deux.
Non, j'ai déjà eu un moins 1. Je sais pas comment j'ai fait ça.
Un très mauvais geste sur une très mauvaise stat.
C'est ça la beauté du Donjon Dragon. C'est comme dans la vie, hein? On contrôle tout jusqu'à ce qu'on contrôle rien.
Exact. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est ça la beauté. Puis je pense que c'est un élément qu'en tant que maître de jeu, c'est très important de le développer. Parce qu'en fait, moi, mes plus beaux souvenirs de Donjon Dragon, en fait, ce sont des échecs critiques. Mais parce que Yomania, c'est le fun dans une histoire quand le héros il chute, c'est le fun quand il y a un moment où il échoue, quand il n'est pas parfait en scénarisation, on appelle ça un Gary Stu ou une Mary Sue. Lorsque le personnage il réussit absolument tout ce qu'il fait, il y en a que ça peut être leur trip de temps en temps, mais c'est pas périn, c'est pas quelque chose qui est plaisant quand tu es tout le temps en train de tout réussir. Parce que je pense à une partie de Donjon Dragon que j'avais fait à l'époque, il y a une volée de flèches qui part sur moi et je me fais décimer. Là. C'est-à-dire que mon personnage, là, il n'est pas seulement mort, mais là, le maître du jeu il me dit non, mais c'est correct, t'es pas encore mort. Puis là, il lance ses dés et je vous jure, sur 5 des 6, il y a 5 des 6. Genre, j'ai 6, 5 fois le chiffre 6. Puis ça, c'est une quantité de dégâts qui est quand même assez incroyable. Là. C'est mon personnage, il n'est pas juste mort, il est mort deux fois. Là. Puis mon personnage continuait pour mourir. Ben, à un moment donné, en tant que joueur, qu'est-ce qu'on finit par faire? Ben là, on se sent invulnérable. Fait que moi, à chaque fois qu'il y avait un monstre, à chaque fois qu'il y avait un coup de canon, ben, je me mets devant. Je sais que je suis immortel. C'est ça, en fait, il y a manière de rendre le fun des échecs critiques. Notamment, moi, ce que j'essaie de faire, parce que je travaille beaucoup avec des plus jeunes, c'est que j'essaie de rendre ça drôle. Si, dans votre échec critique, je sais pas, moi, au lieu de casser l'épée, ben, ça pourrait être... alors que tu essaies de donner un coup sur ton adversaire, l'épée te glisse des mains, tombe à la renverse, tu glisses sur le dos, il marche sur le pommeau revole, vient lui mettre un coup en plein visage. Bref, on est capable de rendre ça humoristique, on est capable de faire en sorte que ça devienne intéressant, puis que l'échec critique ne nous fasse pas sentir mal, parce que ben justement l'objectif du jeu de rôle, c'est de s'amuser, c'est d'avoir du plaisir, c'est de vivre des expériences folles avec ses amis. Il faut pas juste que ça soit punitif lorsque tu as un échec critique, il faut que ça soit drôle. Je pense à une partie de l'attaque des Titans que j'avais fait. J'avais un joueur qui avait organisé, puis c'est un joueur qui aime pas parler en général, là, il avait organisé un gros discours, il avait organisé plein de trucs. Puis lorsque je lui demande de faire un jet pour savoir s'il parvient à conquérir la foule, ben il a un 100 qui est un échec critique, mais le pire que tu peux avoir. Ben ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même fait en sorte que son discours fonctionne. C'est juste qu'il y a des éléments qui sont mal passés, il y a des éléments un peu comiques qui sont produits. C'est-à-dire que il avait fait comme tout un système de miroirs. Le miroir, ben qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui a éclaté, ça l'a fini dans les yeux d'un des spectateurs. Le spectateur est devenu aveugle. Fait qu'il y a manière de tourner ça pour que ça devienne intéressant, parce que justement, quand on a des joueurs qui ont une série d'infortunes comme toi, Nassim, c'est pas agréable, mais il y a manière de faire en sorte que ça soit moins désagréable.
C'est ça, exact. Ben, justement, moi, c'est pour ça que je m'en rappelle, c'est que malgré tous mes échecs critiques, je continue à jouer, puis c'est juste que c'est ça, au lieu d'être le boss final comme c'était supposé, ben, j'étais juste un clown, puis j'étais comme un gars comme les autres. Là.
Ouais.
Fait que c'est sûr que c'était un peu ça, puis de toute façon, moi, je pense vraiment ce que j'avais aimé de cette partie-là, c'est ma première et dernière jusqu'à ce jour-là. Ce que j'avais aimé, c'est ce souvenir-là très vif que c'est le fun, puis que je suis juste là pour avoir du fun. Puis, ben, tu sais, j'ai rencontré du nouveau monde. Tu sais, la plupart des gens avec qui j'avais joué, je les connaissais pas avant. Puis, très facilement, justement, avec le Donjons et Dragons, ben, t'as un prétexte pour te faire des nouveaux amis, pour rencontrer de nouvelles personnes. Puis que ça file pas awkward, tu sais. Après, vous pouvez parler de la partie, vous pouvez parler, tu sais, ça peut vraiment mener, c'est un gateway pour mener ailleurs. Fait que c'était vraiment une belle expérience. Puis c'est ça, c'est sûr que éventuellement, j'aimerais ça en refaire d'autres. Là.
Ouais, bon, on avait parlé de peut-être en faire une avec la gang des Kiwi et des Nerds le mois prochain. On vous gardera au courant de comment ça se passe. Mais juste pour vous donner une idée d'à quel point ça peut aller loin lorsqu'on crée des liens avec nos joueurs, moi, une de mes joueuses, c'est aujourd'hui ma colocataire. Là, donc, bonjour à Mélissa. Fait que ça l'a permis de développer des liens qui sont durables. La plupart des gens avec qui j'ai fait du Donjon Dragon quand j'étais plus jeune sont à ce jour encore mes amis. La plupart, je dis bien. Puis je sais que toi aussi, Maya, une bonne partie de tes amis, tu te les es. Ben, vous vous connaissiez peut-être un petit peu avant, mais ça l'a permis de raffermir le lien lorsque vous faisiez du Donjon Dragon.
Ouais, ben, on s'est connus comme à l'école, puis il y en a une qui a dit oh, je me suis inscrit à Donjon Dragon, fait qu'on s'est tous inscrits, puis ben, c'est ça.
Ça l'a permis c'est ça, de renforcer les liens. C'est quelque chose qui peut être intéressant, parce que si on a des parents qui nous écoutent en ce moment, pensez au fait. Je pense que c'est quand même un problème d'actualité que de dire les enfants sont peut-être un peu trop souvent derrière les jeux vidéo, sont peut-être un peu trop souvent derrière leurs écrans de cellulaire, tout ça. Mais en fait, c'est que c'est des stimuli qu'on vient rechercher. Et lorsque vous voulez que votre jeune, en fait, il décroche un petit peu de l'écran, je pense que Donjon Dragon, c'est, vous m'excuserez l'expression anglaise, mais c'est the next best thing. Parce que c'est comme un jeu vidéo, sauf que sans vraiment t'en rendre compte, t'es en train de socialiser, t'es en train de développer tes skills sociales, parce que ben, faut que ton personnage y parle, il faut que ton personnage, tu sais, il y a des énigmes dans ces parties-là, ben ça vient aussi chercher le côté réflexionnel. Fait que c'est comme d'être en train d'étudier, sauf que t'as du plaisir, puis t'es en train de créer des liens au final.
Ouais, c'est vraiment ça. Puis tu sais, de ce que j'ai vu de mon expérience, c'est que ça te permet justement d'aller chercher une partie de ton imagination que tu n'avais pas. Tu sais, justement, moi je dirais plus, c'est qu'à 40 ans, j'avais pas trop l'imagination, parce que les jeunes, qui, pour eux, la boule de feu, c'était 3 cases, 4 cases, c'était donc bien important pour eux. Mais moi, j'avais tellement pas cet aspect d'imagination dans ma tête que ça me passait à travers, tu vois.
Ouais.
Donc, tu sais, c'est quelque chose, je pense, qui peut venir justement développer certaines parties là, de ton cerveau, de ton imaginaire qui est très important dans la vie de tous les jours. Hein. Fait
que... Ben oui, parce que même, peu importe le métier qu'on fait, garder un certain aspect imaginaire, je pense que ça peut être un bon moment de détente, ça peut être un moment de relaxation intéressant. Et
un dernier truc, c'est ça, c'est qu'en fait, ce que ça vient créer, moi je trouve la vie est belle, quand elle est pleine de symboles, puis l'imagination, c'est ça qui vient créer le symbolisme dans la vie. C'est comme ça qu'on est capable de voir, ah, la fleur, elle est belle, puis pourquoi elle est belle, ben, c'est comme notre imagination qui vient créer, parce que sinon, tu peux juste dire, ah, ben, c'est juste une fleur, là, on s'en fout. Fait que
exact, puis maintenant c'est un mime, mais je veux dire 42. Maintenant, 42, ça vient d'un livre dans lequel il y a tout un développement, tout un cheminement qui se fait avant que le symbolisme fasse que le chiffre 42, en fait, c'est la réponse de la vie. Bref, je linkerai peut-être le lien de ce livre-là sur la page Facebook, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais aller chercher du symbolisme, créer de l'imaginaire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'étaient tournés sur le donjon Donjons Dragons lorsque il y a eu la pandémie, parce que c'était une belle manière de s'évader de tout ça. Donc moi, je vous invite à essayer de faire des parties de Donjons Dragons, à rejoindre des clubs de Donjons Dragons s'il y en a. Ça reste même d'actualité avec Stranger Things, le Hellfire Club. C'est pas des cultes satanistes, contrairement à ce que certains journalistes auraient pu tenter de vous faire croire dans les années 80. Et c'est sur ce beau message que je vous dis donc à la semaine prochaine pour d'autres émissions de des Kiwis et des Nerds. Et on essaiera de vous garder d'actualité sur le film, le court-métrage d'Alban Fanny. J'en profite pour vous rappeler qu'elle est encore en socio-financement pour 3 jours et qu'il y a des contreparties à tout don qui sont faits. Même un 5$ peut faire une énorme différence pour de jeunes réalisatrices de la ville de Québec. Allez les encourager, allez suivre ça et surtout, continuez de faire de belles parties de jeux de rôle, de belles parties de jeux vidéo et de jeux de société. On se dit à la prochaine.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 mètres, la coupe Vanier au bout du pied.
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro 1.